radio-imo.fr.
L'invité d'Ingrid Napi-Choulet, professeur titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l'ESSEC Business School.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Souleymane Jean Galadima, directeur général de Wicide Immobilier.
Bonjour Ingrid.
Qui est une filiale du groupe Wicide. Alors c'est quoi Wicide Immobilier ?
Wicide Immobilier, c'est une plateforme de finances participatives. C'est la première plateforme en France qui permet à des investisseurs particuliers de financer en fonds propres des opérations de promotion immobilière, de logement, d'activité ou d'aménagement foncier.
Simplement par un clic ?
Simplement avec un clic et en s'inscrivant sur une plateforme web.
Alors comment vous procédez pour évaluer le risque des opérations de promotion immobilière que vous financez ?
Alors nous recevons énormément de dossiers de financement de toutes les régions de France et de Navarre. Et nos équipes d'analystes étudient à la fois la solidité de la maison mère du promoteur, son professionnalisme, sa capacité à pouvoir livrer une opération. Mais nous passons le plus gros de notre temps à étudier l'opération d'elle-même, c'est-à-dire les éléments techniques, financiers, commerciaux, juridiques, pour s'assurer qu'au-delà effectivement de la livraison technique de l'opération, nos investisseurs seront remboursés à la livraison et à la commercialisation de l'opération. Puisque nos opérations sont financées au travers d'un emprunt obligataire et nos investisseurs seront remboursés à l'échéance de cet emprunt obligataire. Notre objectif est donc simplement de nous assurer que le calendrier de l'opération et son bilan financier seront respectés.
Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous synthétiser un peu le montage d'une opération de promotion immobilière et à quel stade vous intervenez ?
Alors pour bien comprendre, une opération de promotion immobilière se finance de trois manières. Elle se finance au travers de la pré-commercialisation, elle se finance également au travers de la dette bancaire et elle se finance également au travers de l'apport du promoteur. Comme un particulier qui sollicite un crédit.
Qui est réglementé cet apport.
C'est réglementé aujourd'hui. Une banque, au travers de ses contraintes prudentielles, demandera au promoteur entre 5 et 15% du prix de revient de l'opération.
D'accord.
Sauf que lorsqu'un opérateur a plusieurs opérations en même temps, il se retrouve limité dans sa croissance. Et ce sont ces apports que les investisseurs particuliers Wicide vont venir compléter. Ils vont venir apporter un complément de financement au promoteur pour lui permettre d'acheter son terrain, de financer ses travaux, d'accélérer sa commercialisation et seront in fine remboursés à la livraison du programme.
D'accord, donc en fait vous venez compléter le financement bancaire classique.
On vient non pas compléter le financement bancaire puisque notre financement est un peu différent. Il s'agit plutôt de ce qu'on appelle des quasi-fonds propres alors que la banque amène vraiment de la dette. Nous venons simplement amener le complément des fonds propres du promoteur. Un exemple tout simple, vous avez une opération à 10 millions d'euros, la banque demande 1 million d'euros au promoteur, 500 000 euros seront amenés par le promoteur et 500 000 euros seront apportés par nos investisseurs particuliers et professionnels.
Vous vous rémunérez comment ?
Le modèle économique est relativement simple. Aujourd'hui, nous nous rémunérons entièrement sur le promoteur, c'est-à-dire que nous nous rémunérons au résultat, il n'y a pas de frais d'audit, pas de frais de dossier, mais dès que nous avons versé les fonds au promoteur, nous lui facturons une commission aujourd'hui qui est de l'ordre de 8 à 10%. De ses fonds propres apportés. Donc j'amène 1 million d'euros, à l'issue de cette opération, je facturerai au promoteur sur la fourchette basse 80 000 euros au titre de cet apport de fonds propres.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée du type de promoteur immobilier qui est concerné ?
Nous ne travaillons pas aujourd'hui en effet avec les grands majors, les grands promoteurs cotés. Notre cible est plutôt celle des grands ou modestes opérateurs régionaux qui sont en pleine croissance, qui connaissent leur marché et qui ont un besoin de fonds propres complémentaires pour saisir de nouvelles opportunités, pour soutenir leur croissance.
Vous voulez dire que vous intervenez essentiellement dans les métropoles ?
On va principalement travailler sur des métropoles dynamiques. Nous avons fait des opérations sur la région Île-de-France, des opérations sur Paris Intramuros, mais nous travaillons effectivement sur Bordeaux, sur Lyon, sur Nice, également sur Toulouse, pour capter effectivement ces opérateurs qui ont un chiffre d'affaires entre 10 et 100 millions d'euros annuels.
D'accord.
Et qui rentrent parfaitement dans notre cible d'investissement.
Parce que la région Île-de-France est vaste, donc il n'y a pas que Paris et la petite couronne. Donc est-ce que vous intervenez également en seconde couronne, par exemple, ou sur des territoires qui ont besoin, où il y a un manque crucial de logements ?
C'est tout à fait notre ADN. Hein. L'ADN de la finance participative est de pouvoir financer la création de richesses, de financer la création d'emplois, la création de logements. Et de par la typologie de nos investissements, nous faisons de l'accession libre, du logement social. Nous intervenons également en deuxième, en troisième couronne. Nous avons d'ailleurs financé une très belle opération sur la commune de Chelles qui était vendu en bloc à 3F, une opération qui était portée par le promoteur Partena. Il s'agissait effectivement d'être financé près d'une cinquantaine de lots au travers effectivement du financement participatif et de permettre ainsi aux particuliers de toucher à la fois une rentabilité mais aussi d'avoir un impact sociétal et de connaître l'utilisation de leur investissement.
Alors quels sont les produits immobiliers concernés ? On vient de parler de logement, vous avez parlé de logement social, c'est vraiment le secteur favorisé ?
Les particuliers se projettent très facilement dans le logement. Leur équation est relativement simple. Ils se disent, si je suis prêt à acheter ou habiter dans cette résidence, dans cet appartement, c'est que finalement le promoteur arrivera à la commercialiser. Donc c'est un sujet qui plaît à nos investisseurs, c'est un sujet également pour lequel les promoteurs ont besoin de fonds propres. Pour autant, nous souhaitons ne pas exclusivement exposer nos investisseurs au résidentiel. Et c'est pour ça que nous travaillons également sur des opérations tertiaires, type bureau, activité, également d'aménagement foncier, où nous pouvons avoir des opérations excessivement rapides avec des risques techniques assez limités.
Alors, quel retour sur investissement peuvent attendre ou s'attendre à avoir les, comment vous appelez ça, des crowdfunders?
Des crowdfunders, des webisiders, la foule d'investisseurs particuliers. Le rendement est proportionnel au risque de l'opération, bien naturellement, sûr. Et aujourd'hui, nous sommes sur des fourchettes entre 8 et 15% par an, selon le risque de l'opération. C'est-à-dire que à l'issue de la phase d'audit, de due diligence de l'opération, une note de risque sera allouée à l'opération et en fonction de cette note de risque, la rentabilité sera définie à destination des investisseurs particuliers.
Et qui sont ces investisseurs particuliers? On a une idée, un profil type?
Alors c'est la magie de la finance participative, c'est-à-dire que vous avez à la fois le jeune étudiant qui a un peu d'épargne et qui investit à partir de 1000 euros jusqu'au chef d'entreprise à la retraite qui a un petit family office et qui investit sur nos opérations des tickets des fois de 50-100 000 euros. Et ces personnes investissent dans les mêmes opérations et aux mêmes conditions d'investissement. Pour autant, on a un profil type. En effet, une grande masse d'investisseurs qui ont plutôt entre 30 et 45 ans, qui sont des hommes, qui ont une sensibilité à la finance, pas forcément à l'immobilier, mais qui ont envie de faire fructifier leur épargne et de donner un sens à leur investissement.
Vous sélectionnez les promoteurs, vous sélectionnez également les investisseurs?
Les investisseurs ne sont pas sélectionnés, mis à part nos contraintes réglementaires qui nous exigent de vérifier que les investisseurs ont bien connaissance des risques associés à leur investissement.
Alors, en quoi c'est révolutionnaire tout ça?
C'est révolutionnaire parce que même un investisseur aujourd'hui qui avait 5000 euros éventuellement à placer n'avait pas accès au financement de la promotion immobilière. Il n'avait pas accès à ce qu'on appelle, nous, l'amont de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, un promoteur qu'il connaît à proximité de son logement, financer cette opération, la voir grandir, participer au cœur de la promotion immobilière. Et bien, c'est un peu la magie de la finance participative. C'est avec cette capacité de regrouper plusieurs milliers d'investisseurs, de pouvoir leur permettre d'avoir accès au même produit d'investissement que les professionnels de l'immobilier, que les investisseurs professionnels. C'est la première dimension. L'autre dimension, c'est que les promoteurs, par le passé, avant le crowdfunding immobilier, faisaient appel à des réseaux de financement plus ou moins opaques. Et là, ils ont enfin la possibilité, directement en ligne, de faire de la communication et du financement et d'avoir accès à une nouvelle ressource financière leur permettant la croissance. Et l'on sait tous, effectivement, le besoin crucial de logement en France. Et donc la possibilité donnée aux opérateurs de saisir des opportunités foncières et de continuer leur croissance sur un marché qui semble doucement, d'après les derniers chiffres, redémarrer.
Alors en fait, le promoteur immobilier se dessaisit complètement du risque.
Il ne se désengage pas complètement du risque, car nous exigeons dans notre politique d'investissement qu'une partie des fonds propres du promoteur soit maintenue sur l'opération. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'un co-investissement entre les particuliers et le promoteur lui-même qui gardera toujours des billes dans l'opération.
Mais combien à peu près?
Aujourd'hui, on va être sur des ratios entre 50 et 30% qui seront systématiquement maintenu par le promoteur de manière à maintenir cet équilibre des risques.
Donc en gros, le promoteur immobilier qui est normalement contraint, on va dire, d'avoir pratiquement 15 à 20% de fonds propres de l'opération, il en a combien aujourd'hui?
Alors, plutôt entre 5 et 15. Mais aujourd'hui, il peut effectivement se retrouver avec moins de 5% d'apport de fonds propres sur son opération. Pour autant, nous intervenons en fait à un stade très avancé de l'opération. C'est-à-dire que le permis de construire est purgé, nous sommes sur des taux de précommercialisation qui sont des fois supérieurs à 50%. Et donc le promoteur a déjà fait un énorme travail, a déjà passé un certain nombre d'étapes de risque majeures de l'opération. Même lorsque nous faisons du refinancement, les travaux ont déjà démarré. On a déjà les fondations, une partie du gros œuvre qui est réalisée. Donc eu égard à ce risque qui est maintenant beaucoup plus limité, il nous paraît cohérent qu'effectivement il puisse se dégager en partie de son engagement de fonds propres au bénéfice des investisseurs particuliers qui acceptent le risque et qui en échange en viennent récupérer une rentabilité particulièrement attractive.
Et la rentabilité, elle est récupérée par l'investisseur à quel moment?
Elle est récupérée à la livraison du programme.
D'accord.
Qui est un jalon essentiel puisque la plupart de nos programmes sont financés par des banques et les banques autorisent le remboursement des investisseurs à l'issue de la livraison du programme. Et naturellement à l'issue aussi de la commercialisation pour qu'il y ait suffisamment de liquidité pour rembourser les investisseurs.
Est-ce que les sujets aujourd'hui de développement durable, les sujets de réglementation thermique, etc., sont des préoccupations pour vous?
Alors, de manière très claire, WeSeed historiquement est spécialisé dans le financement de start-up. Nous avons financé des start-up dans l'énergie, la santé, la transition énergétique. Et nos investisseurs sont effectivement assez motivés par des dimension assez sociétale des opérations. Et c'est pour ça que, de manière très simple, la décision d'investissement se fait de manière des fois très subjective. L'esthétique est souvent pris en considération dans nos sélections. Les investisseurs demandent effectivement si l'entreprise utilise ou non des travailleurs au noir. Est-ce que l'entreprise respecte naturellement les réglementations thermiques associées? Donc tous ces aspects effectivement sont généralement exigés par les investisseurs particuliers. C'est tout à fait légitime, même si il ne s'agit pas non plus d'ajouter de la réglementation et des contraintes supplémentaires aux promoteurs qui font déjà effectivement un travail assez exceptionnel en nous présentant des opérations qualifiées.
Est-ce que vous envisagez à terme d'investir à l'étranger ?
Le développement du crowdfunding est naturellement sans frontières. Nous avons d'ores et déjà en fait des investisseurs belges, suisses, luxembourgeois, québécois, canadiens qui investissent effectivement dans nos opérations au travers du web, et il sera naturellement légitime dans le cadre de notre croissance de leur proposer des opérations à proximité de leur territoire. Pour autant, l'immobilier est un marché extrêmement local et il sera pour nous nécessaire d'identifier des partenaires locaux capables de nous aider à analyser et à monter cette typologie d'opérations.
Pour finir cet entretien, est-ce que vous auriez quelques chiffres clés à nous communiquer ?
Avec grand plaisir. Au niveau d'un point de vue global, aujourd'hui, en 2015, plus de 2 milliards de dollars ont été en fait levés au travers du crowdfunding immobilier, que ce soit du financement de la promotion ou de l'acquisition
dans le monde
d'actifs existants. Pour la France, on est en 2015 sur 50 millions d'euros qui ont été levés sur le crowdfunding immobilier, dont 20 au travers de la plateforme WeSeed Immobilier. Les chiffres vont probablement doubler sur 2016, puisqu'à titre propre de WeSeed, nous envisageons déjà de lever près de 40 millions d'euros sur l'année 2016.
Et en termes de produits immobiliers, ça représente combien de surfaces ou combien d'unités de logement ?
Pour prendre l'exemple de WeSeed, en 2015, nous avons donc financé une trentaine d'opérations pour la réalisation de près de 2232 emplois au travers de 900 logements créés ou du moins financés sur la plateforme.
Donc vous êtes essentiellement sur du logement ?
Principalement sur du logement, et on est, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais on est probablement sur entre 10 et 15 000 mètres carrés effectivement de surface d'activité ou de bureaux qui ont été financés au travers de nos activités. Et en effet, comme je l'ai dit, on est principalement sur du logement.
C'est-à-dire que le logement est plus rentable ?
Le logement n'est pas forcément plus rentable, puisqu'on peut avoir des opérations de commerce, d'activités extrêmement rentables, extrêmement attractives. Pour autant, je me répète, mais les investisseurs apprécient énormément cette typologie d'actifs, et les promoteurs en fait en résidentiel aujourd'hui sont particulièrement demandeurs de nos services.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Souleyman Jangalanima. Je rappelle à nos auditeurs qu'on peut également retrouver votre interview dans notre dernier cahier de la chaire immobilier sur la ville et le numérique. Un chapitre très instructif sur comment financer et construire avec le numérique, que vous trouverez sur le site www.cahier-immobilier.esec.edu. Je vous remercie pour cet entretien, et je pense que vous avez également un site internet qu'on peut...
Tout à fait, WeSeed est naturellement présent sur le web au travers du site donc www.weseed.com, où nous serons ravis de partager ce podcast.
Eh bien merci beaucoup, à bientôt.
Radio-immo.fr.
L'invité d'Ingrid Napichoulet, professeur titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l'ESSEC Business School.